Poursuivre ce soir l'étude du livre de Corinthiens. On a fait mardi dernier les chapitres 5 et 6, et ce soir donc on va traiter en entier le chapitre 7. Alors pour faire un petit rappel des deux chapitres précédents qu'on a vu mardi dernier. Chapitre 5 et 6, en fait, Paul il a relevé des trois situations problématiques dont il a entendu parler par son réseau, en fait, et il vient écrire cette lettre aux Corinthiens pour mais ne pas les passer sous silence, mais vraiment, il veut mettre en lumière ces problèmes-là pour les traiter dans la transparence, dans le but que les Corinthiens puissent comprendre et changer leur point de vue. Donc, on a vu qu'il y avait un cas d'inceste. Des cas de procès entre chrétiens qui se faisaient entre chrétiens devant des tribunaux du monde, et puis il y avait aussi plusieurs situations d'impudicité, ce qu'on appelle la débauche sexuelle, qui était vraiment assez présente dans cette église de Corinthe, pratiquée par certains. Et donc nous avons vu que Paul a vraiment cherché à replacer le message de l'évangile au centre des débats, tout simplement pour que la justice de Dieu soit vraiment comprise et renforcée. Et donc, à plusieurs reprises, il est revenu sur des sujets de l'Ancien Testament, la Pâque, des fêtes juives, pour vraiment chercher à redonner une vision globale de l'œuvre de Dieu, et pour faire comprendre à cette Église qu'elle fait partie de l'œuvre globale de Dieu. Et donc, il a cherché toujours, par la parole, en fait, à redonner des directions claires sur ces pratiques qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le chapitre 5 et le chapitre 6. Et donc ce soir, on voit le chapitre 7. Et en guise d'introduction, je voudrais simplement qu'on lise le premier verset qui va nous donner le ton de notre étude ce soir. Je vais vous le lire, 1 Corinthiens 7, 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Voilà, donc ici le but est clairement dit. En fait, on apprend en lisant ce premier verset qu'il a reçu une lettre des Corinthiens. Ça veut dire qu'en fait, il y avait une correspondance et il est en train de démarrer la réponse en fait aux questions qu'il a reçu dans la lettre que certains Corinthiens lui ont adressée. Je vais lire ça après. Et le but de ce chapitre, ça va être de répondre aux questions qui sont données dans cette lettre par les Corinthiens qu'il a reçues. Et donc certainement que c'est ce qui a motivé le fait qu'il leur ait écrit. Il leur a écrit pour leur donner plein d'instructions, plein d'enseignements, mais c'était aussi pour répondre à cette première lettre qu'il a reçue d'eux, et donc pour leur répondre. Donc il va y avoir, à partir de ce chapitre 7 et dans les autres chapitres, à chaque fois il va expliquer, il va dire pour ce qui concerne tel sujet dont vous avez écrit, pour ce qui concerne tel sujet, etc., etc. Il va donner vraiment les instructions, il va s'appliquer rigoureusement à tout détailler, avec précision. On connaît vraiment comment Paul peut aller dans la profondeur des choses. Et en fait, quand on lit ce premier verset, je ne sais pas si ça vous a un petit peu surpris, mais moi ça m'a surpris, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans le même sujet que ce qu'on venait de lire dans les chapitres 5 et 6, puisqu'en fait, il semblerait que certains Corinthiens aient écrit à Paul en lui disant, on a l'impression que c'est pas bon que les hommes et femmes aient des relations sexuelles. Dans ma version, c'est dit d'une manière, mais est-ce que quelqu'un a une version Summer ou français courant, c'est dit de manière un petit peu différente, vous n'avez pas? Personne?
Il est bon qu'un homme se passe de femme.
Voilà, en fait, c'est deux points ouvrés les guillemets, c'est ça? C'est en fait comme s'il recevait de lui, des Corinthiens, cette affirmation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a des Corinthiens qui ont écrit à Paul en lui posant cette question parce qu'il se posait cette question, mais finalement, est-ce que c'est bon entre l'homme et les femmes d'avoir des relations? C'est vraiment la question qui se pose. Et donc, c'est vrai que mardi dernier, on a vu qu'il y avait des cas d'impudicité et de débauche sexuelle dans l'Église. Donc, en fait, Paul a réprimé cette idée en rappelant que notre corps tout entier appartenait à Christ et que ce n'était pas que notre esprit, puisque certains dans cette Église pensaient que notre esprit était à Christ et que notre corps, en fait, était condamné par le péché, donc on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on a vu mardi dernier. Et puis là, tout d'un coup, il y a des hommes qui disent « Mais alors, est-ce que c'est bon de toucher des femmes ou pas, enfin, d'avoir des relations ?» Donc c'est vraiment ce qu'on peut comprendre, en fait, premièrement, c'est que cette Église, Paul a affaire à une Église qui est très hétérogène, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les extrêmes qui sont rassemblés dans cette même Église, et on comprend, en fait, quand on voit ça, que la mission de Paul, elle est juste énorme, d'arriver à replacer vraiment le message, le bon message, de leur donner le plan de Dieu, et d'arriver à rassembler en fait tout le monde au travers de cette lettre, donc tout en prêchant la vérité. Donc c'est vraiment une mission très très importante, et il doit apporter la modération. Et donc, il va vraiment prendre tout ce chapitre pour clarifier toutes ces questions et pour apporter toute la modération nécessaire à cette Église. Tout va y passer et je suis vraiment frappé de... En fait, on va voir qu'il y a beaucoup de détails dans l'enseignement de Paul dans ce chapitre. Il ne veut pas laisser de zone d'ombre, en fait. On peut dire en quelque sorte qu'il va vraiment se mouiller. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire de langue de bois, il va prendre le sujet vraiment de manière approfondie et poussée. Et en fait, il le fait parce que justement, il voit que c'est le grand bazar, en fait. Qu'il y en a vraiment, ça part dans tous les sens. Et donc, il sent qu'il a besoin d'apporter de la clarté pour les membres de cette Église. Et donc, dans tout ce qu'on va voir, il y a deux niveaux d'approche. D'abord, Paul, il va présenter les ordonnances présentes dans la parole que le Seigneur lui-même a affirmé ou qui sont déjà présentes dans la Bible. Donc là, il n'y a aucun risque de se tromper puisque c'est vraiment la parole, c'est le Seigneur qui a parlé, qui a donné des indications. Et puis, lorsqu'il faut traiter des points un peu plus particuliers pour lesquels le Seigneur ne s'est pas exprimé ou que la parole n'aborde pas, là, il va donner son avis en signifiant avec humilité qu'il pense être légitime pour donner son avis parce que il a reçu cette mission et qu'il a l'Esprit de Dieu qui lui permet d'être inspiré et de donner son avis. Donc il va y avoir en fait des consignes, celles qui viennent du Seigneur, et puis des conseils, ceux qui viennent de Paul. Donc on va regarder les différents points abordés. Et finalement, on va se rendre compte que cette étude, elle est quand même ce soir assez simple parce que Paul, il a déjà fait tout le travail. Il a vraiment tout détaillé avec précision. Donc, quelque part, on va avoir juste à lire, en fait, et à comprendre ce qui est dit. Donc, je vais me donner un petit plan pour suivre. Apparemment, les feuilles, elles étaient attendues. Alors, je ne me suis pas relu et je suis très mauvais en orthographe, surtout s'il y en a. Voilà, donc Paul va apporter des clarifications dans tout ce chapitre. Il va commencer par le mariage. Et donc, on va lire les versets 1 à 7 pour commencer ce premier bloc de versets, si quelqu'un veut le lire.
Un à sept. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tienne de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre.
Voilà, merci. Donc ici, Paul attaque cette série de clarifications par les relations au sein du mariage. Et nous pourrions rajouter au sein du mariage chrétien. Parce que comme nous l'avons dit, certains chrétiens du début de l'Église, en fait, se demandaient tout simplement si l'engagement qu'ils avaient pris à suivre Christ impliquait de tourner le dos à tous les anciens engagements qu'ils avaient déjà pris, y compris celui du mariage. Et je pense que si on se met à la place d'un chrétien de l'époque, c'est une question qui peut être légitime en fait. Nous, on ne se la pose plus aujourd'hui parce qu'on a déjà le Nouveau Testament en notre possession et qu'on a déjà ces clarifications de Paul et que toute l'Église a été construite sur ces vérités-là. Mais à l'époque, lorsqu'on devenait chrétien, certains se demandaient jusqu'à quel niveau d'engagement il fallait aller. Et en fait, on peut lire Matthieu 19, 29, ce sont les paroles du Seigneur. Quelqu'un veut lire Matthieu 19, 29.
Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on lit, effectivement ce sont les paroles du Seigneur, donc on voit que, on comprend que quand on se livre à Christ, quand on se donne à Christ, c'est vraiment un engagement total. Et donc, quand on lit ce passage, on peut se demander, mais jusqu'où ça va? Donc, pour moi, franchement, je me dis, à cette époque-là, c'est peut-être pas une question illégitime, c'est peut-être une question qu'il faut se poser. Et pour certains, l'acte sexuel était devenu comme possiblement illégitime. C'était une question aussi. Et petit à petit, il y a un courant de pensée qui s'est développé, qui, pour le coup, est à l'extrême opposé de tout ce qu'on a pu voir dans le chapitre 6, dans le chapitre précédent. C'était vraiment totalement à l'opposé. Et ce courant de pensée peut se comprendre quand on lit 1 Timothée 4, versets 1 à 5. On va le lire aussi. Je vais vous le lire. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc ici, on voit vraiment que c'est la naissance, en fait, d'un courant de pensée légaliste, et on voit que ça prend de l'ampleur. C'est l'idée de se dire vraiment que, tout est impur, et donc on comprend que c'est aussi une dérive dangereuse, on voit que c'est vraiment condamné, quoi, de penser ça, parce que en fait, on n'a pas compris le message de l'Évangile, et ça peut être aussi une dérive, peut-être aussi grave que l'autre extrême qui est l'impudicité. Donc, Paul commence à apporter des clarifications dans ces sept premiers versets qu'on a lus du chapitre 7, et en même temps, il est en train de répondre au problème de la fin du chapitre précédent, donc il essaye de tout faire en même temps. Donc, Paul, il affirme quoi ? Qu'on a lu de ce premier bloc de versets, on comprend que concernant les relations hommes-femmes, on est faible sur ce point. Il nous rappelle que le désir sexuel, c'est un terrain favori du diable pour nous tenter. Et en fait, on ne peut que reconnaître cette vérité en nous. Très généralement, nous sommes pour la plupart concernés par ce besoin de nous unir et de partager ce désir en couple. Et avant cette lettre de Paul, jusqu'ici, les instructions que nous avons concernant le mariage, c'est Genèse 2, 24. On va le lire, Genèse 2, 24. Ça, c'est Dieu qui établit le mariage, qui explique.
Pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
Voilà. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est vraiment... C'est un verset qui est repris par Jésus dans Matthieu 19. Et ensuite, on peut lire aussi juste avant Genèse 1, versets 27 et 28. Je vais le lire. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc en fait, on comprend que, initialement, ce désir a été créé par Dieu, il est en nous, il fait partie de notre ADN, et on comprend aussi que dans le plan parfait de Dieu, dans son jardin, dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun problème avec ses relations, avec la sexualité, puisque tout était fait dans la pleine volonté de Dieu. C'est donc à partir de la chute, que tout a été corrompu lorsque le péché est entré en nous, et tout a été déréglé, et on est devenu à ce moment-là très facilement tentable sur ce point. Et on sait que le diable ne se prive pas d'exploiter cette brèche pour nous faire chuter. Donc Paul, il dit, dans ses premiers versets de 1 Corinthiens 7, il dit, c'est vrai qu'à la base, tout est parfait, tout est bien créé par Dieu, mais puisque tout est corrompu, l'idéal, ça serait de vous tenir éloigné de ce qui peut devenir un piège parce que le péché a tout corrompu. Mais il dit aussi, pour éviter de chuter, ne nous infligeons pas une abstinence qui serait encore plus dangereuse parce qu'elle nous exposerait trop. Et donc, il dit comment faire. Il dit donc, oui, on peut avoir des relations, mais il faut le faire dans le strict cadre du mariage. Et donc il affirme que effectivement le mariage est compatible avec la foi chrétienne, et c'est un engagement public qui est pris entre l'homme et la femme. Et on comprend que dans ce strict cadre du mariage que Dieu a défini à la base, là Paul il nous dit, si vous vous y soumettez en recherchant la volonté première de Dieu, celle qu'il avait dans son plan parfait au début, effectivement vous pouvez vivre en couple cette intimité sexuelle. Et on peut déjà dire ici, sans trahir un grand secret, que à aucun moment, dans une autre partie du chapitre, Paul ne va valider qu'un couple puisse être uni dans un autre cadre que celui du mariage officiel. Il dit donc OK pour le mariage, c'est un cadre, c'est une limite qui est définie, et il demande aussi de le faire en toute sainteté. Donc on peut lire Hébreux 13, 4, si quelqu'un veut le lire.
Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de soudure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
Voilà, donc le lit conjugal, vraiment que ce soit un lieu saint, donc fidélité bien entendu, et il demande de se placer dans la volonté de Dieu, soit exempt de toute soudure. Ensuite, je vous relis les versets 3 à 5 parce que c'est intéressant. Dans le chapitre 7, il dit que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Et ici, on voit qu'il est intéressant de voir que l'intimité sexuelle, ça devient au sein du couple presque un devoir. On peut l'entendre comme le devoir de s'assurer que l'autre est vraiment pleinement satisfait, dans le but aussi d'éviter d'avoir des passions pécheresses. On est bien d'accord que c'est pas que ça, puisque c'est aussi un moment privilégié dans le couple, bien entendu, quand on lit le Cantique des Cantiques, on voit qu'il y a vraiment cette passion entre la Sulamite et le prince. On n'a pas besoin de les forcer, hein. C'est pas un devoir, voilà. On sait très bien. Mais il faut, en fait, Paul, il dit, voilà, songez à l'autre, à ce que vraiment vous puissiez désamorcer, en fait, ces passions qui pourraient naître. Donc c'est intéressant d'aborder le mariage sous cet aspect-là. Et nous avons aussi une précision assez forte qui est donnée pour comprendre le mariage, c'est que, en fait, notre corps ne nous appartient plus. Notre corps appartient à l'autre. Et ça, c'est quelque chose de fort aussi. Et je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qu'on a un peu perdu dans notre société, dans notre conception du mariage. C'est vrai que l'engagement, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à faire. Mais si ça serait intéressant que le maire il lise peut-être ce passage, on dit consentez-vous à prendre pour époux, mais en fait c'est plus consentez-vous à donner votre corps à telle personne. C'est ça le mariage en fait. Et c'est intéressant de le voir sous cet aspect-là. Il y a aussi donc l'appartenance de l'un vis-à-vis de l'autre et égalité entre l'homme et la femme. Nous avons vu que vraiment Paul il place l'homme et la femme sur le même plan d'égalité. Et c'est intéressant à rappeler parce que notre société elle condamne vite les propos de la Bible et notamment les propos de Paul quand il est question de l'autorité de l'homme et de la soumission de la femme. On avait traité ces sujets déjà il y a quelques mois. On avait vu que ça sert de témoignage pour le monde entre la relation de Christ et de l'épouse, Christ qui est l'époux et l'Église, l'épouse qui est nous. Mais nous voyons ici qu'en fait... Paul, il considère vraiment l'homme et la femme sur le même plan d'égalité de valeur. Et c'est vrai que c'est quand même à noter parce que souvent, toutes ces questions-là sont mal comprises. On va passer ensuite au deuxième bloc à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Il va être question de la situation des veufs et des veuves. Donc si quelqu'un veut lire les versets 8 à 11...
À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme.
Voilà, donc là... Nous commençons à rentrer dans le détail de certains cas de figure. Donc ici, il est question des veufs et des veuves. La manière dont Paul présente les choses laisse entendre qu'il s'inclut dans cette catégorie de personnes. Et c'est vrai que, on le dit souvent, mais il est fort probable que Paul ait été marié, puisqu'il était pharisien, membre du Sanhédrin, ça veut dire qu'il devait être marié. Et certainement qu'il est lui-même dans cette situation de veuf, même si on n'a pas de confirmation, mais c'est fort possible. Et donc, en fait, quelque part, il redit ce qu'il a dit précédemment. Il explique que l'idéal serait de rester dans cette situation lorsque notre époux ou notre épouse n'est plus là. Nous détaillerons plus loin de voir quels sont pourquoi dans le chapitre du célibat, ça sera le dernier chapitre. Mais il explique que nous ne sommes pas tous appelés à pouvoir se priver de relations conjugales. Donc là encore, pour éviter de brûler, c'est-à-dire de venir à pécher sans pouvoir se contenir, alors il explique qu'un nouveau mariage est préférable dans ce cas. Pourquoi est-ce que c'est possible de se remarier? Parce que le mariage entre un homme et une femme dure, dans ce cas-là, parce que le mariage entre un homme et une femme dure le temps de la vie des deux conjoints. Ça, on le voit un petit peu plus loin à la fin du chapitre, on peut le lire rapidement. Chapitre 39, on lit, verset 39, merci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Et puis, c'est rappelé aussi par le Seigneur dans Marc 12, verset 24-25, on peut le lire.
Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. »
Voilà, donc là, en fait, on comprend que le mariage est une union temporaire pour notre vie ici-bas. Et il n'y aura pas de mariage dans le ciel. Nous pourrons certainement retrouver l'être qu'on a aimé, mais le type de relation et de communion que nous allons vivre en tant qu'enfants de Dieu sera tellement particulière et merveilleuse que nous n'aurons plus besoin de ce genre d'union. Donc ça, c'est ce qu'affirme le Seigneur. Donc, voilà, c'est vrai, c'est lorsque un des deux époux meurt, ça met fin au contrat. Et le Seigneur va préciser dans Matthieu 5, 32 que le seul autre motif qui peut justifier la fin du contrat, par un divorce en fait, concerne les cas de dérive sexuelle de l'un des deux conjoints. Ça peut être de la prostitution, de l'adultère, de l'homosexualité ou de la bestialité. Je vais vous le lire rapidement, Matthieu 5, verset 32. C'est important de préciser tout ça parce que il est question aussi de ne pas répudier sa femme, parce qu'à l'époque, les Juifs avaient fait des lettres de divorce, et on apprend qu'en fait, c'était pas la volonté de Dieu qu'ils puissent divorcer les uns des autres. Donc, Matthieu 5, 32. Et moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà. Donc là, c'est le fait qu'il y ait un adultère, ça met fin également au contrat. Pour terminer sur la situation du veuvage, Paul aussi rappelle, pas dans ce chapitre 7, mais dans 1 Timothée 5, versets 14 et 15, il apporte une précision qui est intéressante, qui permet de compléter ce qu'on a vu. 1 Timothée 5, 14... Là, il va parler par expérience. Timothée 5, 14. Il dit, « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes... » Non, ça c'est mon sujet. Voilà. Donc, en fait, là, il va expliquer que l'idéal est de pouvoir rester célibataire quand on est veuf, mais il reconnaît que ça va être plus compliqué si on est dans la force de l'âge, si l'appétit, si le désir est encore là. Donc il parle vraiment par expérience et il parle donc des femmes qui sont jeunes et veuves. Et donc en fait, l'idée c'est encore de ne laisser aucune occasion au diable de les tenter. Et je termine aussi en disant que donc au verset 39, on va lire la fin du verset 39 de 1 Corinthiens 7. Désolé, on fait pas mal de gymnastique là, mais où on a lu « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Donc ça, c'est une précision importante à apporter. Donc, quand on est converti, on comprend que si une relation doit naître, elle le sera forcément dans le Seigneur, c'est-à-dire entre deux chrétiens authentiques. C'est la volonté de Dieu pour que le couple partage sa foi et puisse glorifier Dieu. Donc voilà toutes ces précisions que Paul apporte ici. Ensuite, on va passer au verset 12 à 16. Quelqu'un veut lire ?
Pour les autres couples, en l'absence d'indication de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non-croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime aux yeux de Dieu, et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime aux yeux de Dieu. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu ? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais qu'en sais-tu ? En dehors de ce cas, tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a signée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé.
Voilà. Voilà, donc ici ici donc on comprend que c'est un nouveau sujet qui est abordé, qui concerne la situation des couples avec un conjoint qui est inconverti. Donc la question, c'est pas de savoir si lorsqu'on est déjà converti, on peut se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas converti, puisque ça, on vient de dire que Paul demandait que ça se fasse dans le Seigneur. Ici, Paul traite le cas particulier de quelqu'un qui devient croyant, qui se convertit, mais dont le conjoint avec qui il est déjà ne partage pas la même conviction. C'est un cas qui arrive fréquemment. Beaucoup de personnes se convertissent lorsqu'elles sont déjà mariées ou en couple. Et elles sont parfois les seules à vivre cette conversion au sein du couple. Il faut réaliser aussi que, au moment de l'Église primitive, c'était une situation assez inédite, puisque nous avons le message de la bonne nouvelle qui est présent depuis qu'on est né. Par contre, à ce moment-là, le message est arrivé tout d'un coup. Ce qui veut dire que toutes les familles ont reçu ce message presque en même moment, et donc il a fallu se positionner. Et il y avait dans les couples certains qui ont cru et d'autres qui n'ont pas cru. Donc voilà, il n'y avait pas des retours qui étaient toujours homogènes dans les couples. Et donc la question qui se pose à nouveau, c'est dans ce cas, est-ce que je dois me séparer puisque je ne vais a priori pas pouvoir vivre ma foi avec mon conjoint ? Est-ce que cette situation est saine ? C'est exactement la question qui est posée. Donc ici, Paul, il va donner son opinion. Il ressent l'inspiration du Saint-Esprit et donc il dit que la conversion, ce n'est pas fait pour blesser les gens qui nous entourent. Ce n'est pas fait pour apporter de la tristesse, au contraire. Il dit, si nous sommes déjà engagés, alors plutôt nous sommes plutôt appelés en fait à mettre de l'ordre dans nos vies. Chercher à nous conformer du mieux possible dans notre situation avec notre conjoint converti, au plan de Dieu sur les sujets que nous venons de traiter. Il dit en fait, le Seigneur, il connaît, il comprend votre situation. Il veut que vous exprimiez un changement d'amour auprès de celui qui partage votre vie. Alors il dit, attention, lui, la personne non convertie va peut-être partir, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 19, 29, quand il dit que mais certains ont perdu leur épouse ou leur époux en acceptant le Seigneur. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas ça. Il y a des personnes qui disent « Tu as une nouvelle identité, ce n'est pas la personne que j'ai épousée, ça ne me convient plus. » Et d'ailleurs, Paul affirme que si le conjoint part, il dit « Là encore, c'est un cas où vous n'êtes plus lié avec la personne. Si elle vous abandonne, vous n'êtes plus lié, le contrat est rompu. » Et en fait, ce qu'on comprend, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que de notre côté, quand on est converti et qu'on est avec un conjoint qui ne partage pas la foi, nous devons plutôt chercher à honorer l'engagement qui est pris et chercher à l'assainir. On a l'impression, dans les situations qu'on a lues, que ce n'était pas forcément des situations très franches. C'est le mari, mais ils ne vivent pas ensemble, ou ils vivent ensemble, mais ce n'est pas le mari. Paul, en fait, invite à proposer au conjoint de revenir dans le cadre fixé par la parole, puisque nous avons vu que la seule option possible pour une relation s'inscrit donc dans le mariage. Il est également question des enfants. C'est aussi une des raisons majeures pour laquelle la conversion ne doit pas engendrer de séparation, parce qu'il n'est pas question de faire exploser les familles. Le terme saint ou sanctifié semble exprimer la bénédiction de Dieu sur le couple, sur le mariage, son approbation. Le fait que l'un des deux conjoints soit converti, même si les deux ne le sont pas, sanctifie le couple, mais ça ne veut pas dire que l'autre est saint et sauvé et qu'il n'a pas besoin de se repentir. Il a bien entendu besoin de se repentir, mais ça veut dire que le Seigneur regarde quand même le mariage et la famille avec bienveillance, même s'ils ne sont pas encore tous justifiés. On rappelle ce que le Seigneur déclare sur les enfants. Il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Ça veut dire que eux, on le sait, ils sont automatiquement saints tant qu'ils sont dans leur innocence d'enfant. Et pour moi, qui ai grandi dans une situation où il y avait seulement un des deux parents qui était converti, je reconnais qu'en fait, je comprends assez bien ce que Paul y cherche à dire et je ressens ce qu'il veut exprimer. On est en attente de la conversion du père ou de la mère, mais on ressent quand même la présence de Dieu dans le foyer. C'est quelque chose d'assez étrange. Mais je pense que lorsque Paul dit que le conjoint sanctifie l'autre, ça veut aussi dire qu'il apporte l'évangile au plus proche du conjoint. Que vraiment la bonne nouvelle, elle est tout près pour qu'il puisse le voir et vraiment l'embrasser. Et que l'amour du Christ, exprimé par le conjoint converti, fait une œuvre. Et qu'on est en train de prier pour la personne, pour que les chaînes, elles tombent enfin. On a un passage qui nous éclaire là-dessus, c'est 1 Pierre 3:1, on va le lire. On y femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alors, on a la même chose pour les maris après, où il nous est demandé de montrer de la sagesse envers les femmes. Ça veut dire que on a vraiment cette mission quand on est auprès d'un conjoint non converti. Par notre témoignage, par notre comportement, par l'expression de l'amour de Christ, on a vraiment cette mission de lui exprimer l'amour de Christ pour qu'il puisse vraiment le saisir. Alors on va continuer, si quelqu'un veut lire les versets 17 à 24...
Versets 17 à 24. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. A-t-il été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé.
Voilà, donc là, on a des nouveaux cas de figure qui sont présentés par l'apôtre Paul. Il y a plusieurs sujets. Donc le premier, ça concerne la circoncision. À cette époque, dans le contexte social, en fait, c'était un sujet qui faisait débat. Et il fallait se positionner parce que certains pensaient que c'était une marque d'appartenance à Dieu qu'il fallait conserver. Un petit peu avec la même chose que le baptême qui nous permet de nous identifier à l'Église et au salut de Christ. Là, certains voulaient faire perdurer cela. Mais on va passer rapidement, enfin on va lire les passages juste pour expliquer que ça a été très clair et le sujet est clair là-dessus. Je vais vous lire Acte 15. Versets 24 à 29, lorsque les premiers chrétiens ont été inspirés pour dire que ce n'était pas nécessaire de conserver cette marque-là. Acte 15, 24. « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de bouche les mêmes choses. Car il a apparu bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir que vous absteniez des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Voilà, donc là c'est vraiment une lettre officielle qui stipule que non, si on n'est pas circoncis, il n'y a pas lieu de le faire, cette marque n'est pas en fait nécessaire aujourd'hui comme un acte d'obéissance. Et tout cela est redit aussi dans Romains 2, 28-29, si quelqu'un veut le lire. Romains 2, 28-29.
Celui-là n'est pas juif, qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas dans la circoncision, qu'il est au dehors dans la chair. Mais celui-là est juif, qu'il est au dedans. Et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre, et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
Voilà, on comprend que effectivement c'est la circoncision du cœur qui compte, et que c'est suffisant en fait, et que ce n'est pas donc une marque qui est nécessaire. Donc si on est circoncis, on est circoncis. Si on ne l'est pas, il n'est pas nécessaire donc de le faire. Ensuite, on a donc dans la suite la situation sociale qui est présentée. Ici, Paul explique la nature du changement qui doit s'opérer en nous. Nous savons que lorsqu'on se donne à Christ, notre vie est bouleversée, et elle est bouleversée de l'intérieur, c'est ce que nous venons de lire. Dans l'ordre de nos priorités, dans notre comportement, et dans ce que nous exprimons aux autres. Et Paul explique que ce changement d'identité ne veut pas forcément dire un changement radical de vie. Tout ce que je faisais doit changer avant. Non, il dit c'est pas forcément ça. En fait, c'est exactement la même idée que ce que nous avons vu lorsqu'on est avec un conjoint inconverti. Paul nous invite à ne pas tout remettre en question, à ne pas retourner la table, mais à chercher vraiment plutôt à assainir la situation dans laquelle on est. En fait, on a lu, si tu es esclave et que tu peux devenir libre, profites-en. Ce que je comprends, c'est que, bien entendu, le Seigneur peut d'ores et déjà nous donner de la victoire sur certaines situations, mais nous savons que la victoire, nous l'avons déjà en fait en espérance, de manière certaine, nous l'aurons ici-bas ou nous l'aurons là-haut dans le ciel. Et donc il invite l'esclave, on pourrait dire aujourd'hui celui qui souffre, celui qui est rabaissé ou celui qui est exploité, à se nourrir des promesses de la parole de Dieu. L'espérance du salut nous libère et elle nous permet d'affronter les épreuves de la vie en sachant que nous avons un trésor qui est caché dans le ciel. Et on doit vraiment se nourrir de ça. Ça veut dire que si tu as un métier qui est peut-être pénible et que avant tu passais ton temps à ruminer, alors aujourd'hui tu vas l'aborder de manière différente avec la joie de connaître le Seigneur. Et ça, ça va transformer ton travail, transformer ton comportement et tu seras de manière certaine un témoignage pour les autres. Et à l'inverse, si en fait on a pu profiter d'une certaine liberté parce qu'on avait des privilèges, l'Évangile va nous transformer pour que nous devenions esclaves de Christ, donc beaucoup plus empathiques pour les autres et être vraiment préparés à servir et à se questionner, enfin se soucier, à ne plus vivre égoïstement que pour soi. Et ça aussi, ça va se voir. Donc, ce que je comprends de ce que Paul explique, c'est reste dans ton couple, reste dans ton travail pénible, ou dans le pouvoir que tu exerces, mais à présent, fais-le avec le même regard d'amour que Dieu a porté sur les autres. Et ça, ça va être vraiment un témoignage puissant. Bien entendu, si si notre travail c'était de voler des choses, il faut se fuir le péché. On n'est pas en train de dire qu'il faut rester un voleur si on était voleur, ça on est d'accord. Mais en fait, notre nouvelle position en Christ va faire que notre position sociale n'a plus vraiment beaucoup d'intérêt puisqu'on est vraiment d'ores et déjà enfant de Dieu. C'est ce que je comprends de tout ce passage qui est donné là. Et il faut qu'on avance pour terminer. Il nous reste donc le chapitre des célibataires. Donc on va lire le dernier bloc. Alors si quelqu'un de courageux veut lire les 15 derniers versets, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est réservé pour les 15 derniers versets, donc c'est bon.
Versets 25 à 40.
Ouais.
Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis. Frère, c'est le temps. Voici ce que je dis. Frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous apporter ce qui est bienséant à propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu.
Voilà, merci, Emilie. Donc là, on aborde le dernier chapitre qui concerne le fait de rester célibataire, c'est-à-dire non marié, c'est une éventualité. Et on pourrait croire que c'est un chapitre qui n'est réservé qu'à certaines personnes parce que on va se dire qu'il y a, il y a quelques frères et sœurs qui ont ce don de rester célibataire. Il est vrai que ce chapitre indique au verset 7 que le fait de pouvoir rester seul toute une vie, c'est un don de Dieu. Verset 7, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc ça veut dire que c'est vraiment un don de Dieu. Et on a aussi des précisions qui sont apportées dans Matthieu 19, versets 10 à 12, que vous pourrez lire, qui précise aussi ce propos. Mais en fait, moi je pense qu'on est vraiment tous concernés par cette question du célibat, parce que nous sommes tous à un moment de notre vie célibataire, forcément. C'est vrai qu'on n'est pas marié, donc il y a forcément des moments dans notre vie où nous sommes célibataires. Donc en fait, on est tous concernés par ce propos. Donc Paul, il dit exactement la même chose que ce qu'il a dit précédemment, il ne va pas tout réinventer. Il conseille le statu quo. Il dit, si tu es en couple, tu n'as pas fauté, reste en couple. Mais il est intéressant de voir que, d'une certaine manière, il encourage le célibat et il va expliquer les raisons de cette préférence. Il est tout à fait transparent, donc on va pouvoir comprendre vraiment pourquoi il dit ça. Déjà, ça se passe au verset 15, il dit, je dis cela dans votre intérêt, je ne veux pas vous prendre au piège. Donc Paul, il est en train d'adresser un conseil à l'église des Corinthiens. Et donc il ne va pas leur forcer la main, mais il veut vraiment les prévenir pour que les Corinthiens sachent ce qui va les attendre. Et en fait, il y a deux raisons majeures pour lesquelles Paul prône le célibat. Premièrement, ça concerne le contexte de persécution. Ça, c'est indiqué au verset 26. Il dit « Voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. » Et c'est vrai que l'Église primitive a connu une forte persécution et Paul avait compris que ces choses allaient vraiment se tendre davantage. Et donc, quand on considère la persécution, là, ça devient plus clair pour nous, tout ce que dit Paul. Parce qu'il ne faut pas nous faire des dessins, on comprend bien que la persécution, c'est une épreuve dure à traverser, mais c'est certainement encore plus dur lorsqu'on est avec une famille ou avec un couple. C'est sûr que les liens affectifs deviennent de plus en plus forts. On a plus peur que pour soi, on a peur avant tout pour les autres, pour sa femme, pour ses enfants. Et c'est vrai qu'on a vu il y a quelques jours la détresse de ces familles qui se sont faites massacrer. On comprend que c'est très très dur à vivre. On comprend la détresse des familles avec ces otages qui sont retenus. Du côté palestinien, ils ont tout qui est coupé. Quand on n'a plus de ressources à donner à ses enfants, enfin, on est complètement démunis. Et c'est vrai que, enfin, moi j'ai jamais vécu ça, et Dieu merci jusqu'à présent, mais c'est vrai que quand il y a une situation de danger, je sais que je ne réagis pas du tout pareil si je suis avec Gaëlle, mon épouse, ou si les enfants sont là. Si je suis tout seul, je le vis d'une manière, mais si je suis avec la famille, là j'ai beaucoup plus peur. Donc tout ça, en fait, on le comprend, et c'est ça que Paul est en train de dire. Il dit au verset 28, ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Donc il est vraiment la question de la persécution. Et je pense qu'on est dans un monde où on sait que la persécution, pour l'instant, on est préservé d'une forme de persécution physique, mais on sait très bien que ce n'est pas l'état normal de l'Église. L'Église est persécutée et c'est presque un temps anormal qu'on vit. Et on sent qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ça revienne. Donc je pense que pour quelqu'un qui vit seul actuellement, ça doit faire partie de l'équation de se questionner, bon, il y aura peut-être de la persécution aussi, est-ce que c'est vraiment bon que je fonde une famille? C'est vraiment un sujet qu'il faut intégrer et la Bible en parle, donc je pense que c'est vraiment un sujet. Le deuxième argument que Paul va donner en faveur du célibat, c'est la disponibilité. Au verset 32, il dit... celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et donc, c'est extrêmement clair ici. Paul, il précise son propos, il dit que, en fait, il nous invite là à prendre du recul sur notre vie. Donc, pour essayer de faire vite, parce que l'heure avance, mais... Globalement, on est dans un... En fait, il dit, attention, ne vous laissez pas attirer par le monde qui veut vous vendre une vie de couple et la réussite de votre vie au sein de l'épanouissement familial. C'est vrai que toute la publicité nous montre des couples unis, que le bonheur c'est ça, etc. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonheur à avoir une famille, bien entendu. Mais en fait, il dit, les amis, c'est bien d'avoir un beau mariage, mais gardez à l'esprit que nous avons été rachetés à un grand prix et que notre mission ici-bas, c'est de servir. Et donc, c'est vrai que on reconnaît de toute manière que c'est très bénéfique d'être en couple, ça nous permet de nous soutenir l'un l'autre, mais on doit reconnaître que quand on fonde une famille, ça nécessite aussi beaucoup d'énergie et d'attention consacrée à ce que tout cela fonctionne. Et quand je dis que tout cela fonctionne, c'est parce que ce n'est pas toujours tout limpide et tout clair, je ne vous fais pas des dessins. Hein, ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a... Il y a parfois beaucoup d'énergie qui est donnée en fait à l'entretien de la famille, et Paul il dit, mais ça donne nécessairement moins de disponibilité pour le Seigneur. Donc c'est ça que donne le Seigneur, qu'explique Paul. Bon, j'avais prévu une conclusion et je vais essayer de faire très très court. Je voudrais juste terminer en vous disant que je trouve merveilleux d'avoir toutes ces consignes dans ce chapitre 7, parce que ça nous donne un cadre clair. Et ça nous conforte dans notre conscience en nous disant que si nous rentrons dans ce cadre-là, nous pouvons être justifiés. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, de pouvoir savoir qu'on est agréé à partir du moment où on respecte vraiment le plan que Dieu a mis à disposition en fait, pour qu'on le glorifie, et de voir aussi qu'il comprend nos besoins et nos désirs. Il n'est pas là pour nous réprimer, mais il est là vraiment pour que nous puissions être en paix. Et dernier point aussi que je voudrais dire, ça concerne peut-être plus la jeunesse, juste pour vous dire que c'est vrai que moi, je n'avais pas forcément bien démarré dans ma jeunesse toutes les questions relatives en fait, au mariage. Et je pouvais me questionner à l'époque en me disant, mais ça a l'air d'être impossible à tenir là. La fidélité, d'être fidèle vraiment, faire le mariage, est-ce que c'est vraiment possible? Alors, c'est simplement pour vous dire que oui, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais ça marche. Et c'est vraiment, j'en suis convaincu, le seul moyen d'être vraiment épanoui en couple, c'est de suivre les instructions que la Bible donne au sein du mariage, parce que, bien entendu, il peut y avoir des fois des crashs, et je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, mais le Seigneur peut bénir les mariages, et c'est vraiment là qu'on peut s'épanouir à aimer sa femme, son mari. C'est vraiment quelque chose qui est précieux. Et de vous inviter aussi, quand on parlait du célibat, à pouvoir aussi se présenter le jour de la noce, si on arrive à pouvoir dire, voilà, la fidélité, elle a aussi démarré avant le mariage. C'est quelque chose de très précieux, c'est un cadeau très précieux qui est fait, qui a beaucoup de puissance aussi. Et voilà, c'est un encouragement. Parfois, on fait des fausses routes et le Seigneur est toujours là pour pardonner, mais on peut toujours repartir à zéro avec le Seigneur. Et donc, vraiment, ce chapitre nous encourage à vouloir nous conformer au plan de Dieu pour pouvoir le glorifier au travers de la relation avec l'autre. Désolé, j'ai un peu dépassé. Est-ce que vous avez quand même des sujets ou des questions qui vous... on va pas pouvoir faire un débat de demi-heure, mais... Oui, Paul ?
Juste une question, on va passer en fait entre deux trois traductions.
Oui.
À partir du verset 36, on n'a pas du tout la même...
Ah ouais ?
Oui.
J'ai pas fait attention à ça.
Oui.
On n'a pas du tout la même signification, le même... Oui. Là, je vois sur... Oui, c'est vrai, au verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, et loin qui a décidé dans son cœur de garder sa fille vierge, alors que dans la traduction d'Harvey ou
Summer,
il s'agit de la personne elle-même. Il y a pas,
si quelqu'un craint de mal se comporter envers la jeune fille qui lui est destinée et pense que les choses doivent suivre leur cours normal, qu'il fasse... ce qui lui semble bon. Alors, là, on ne parle pas du père, on parle de la personne qui a envisagé de se marier.
C'est bien de le dire, alors, parce que j'ai dû... comme je devais tout traiter, je n'ai pas pu aborder vraiment tous les sujets. Mais c'est vrai que là, il y a quand même un contexte... Il faut contextualiser, je pense, la version second. À l'époque, il y avait vraiment... en fait, une relation d'autorité entre le père et la fille, qu'il y a peut-être moins aujourd'hui. Mais j'ai retenu en fait que Paul dit de tout faire sans contrainte. Enfin, voilà, bon. Moi, c'est ce que j'ai retenu de cette idée-là. Et je pense qu'en fait, c'est une question de contextualisation entre les deux versions qui a été faite, d'après moi. Je ne savais pas que la version. J'avais pas vu que la version.
Summer, oui. Craint de mal se comporter envers la jeune fille qui lui est destinée.
D'accord.
On voit bien deux personnes.
Ouais. Mature.
Là, c'est le papa qui marie sa fille, et là, c'est
Je pense que c'est vraiment lié au contexte et qu'à l'époque, les choses se faisaient vraiment comme ça. Il y avait la relation d'autorité père-fille, chose qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais bien entendu, l'idée, c'est de, dans toute conscience de...
Le cas ici. Enfin,
qui n'est plus le cas. Je veux dire, le monde social, dans la société...
C'est souvent les parents
qui arrangent les
arrangements de mariage, choisissent. Mais ça ne veut pas dire pour ça que le mariage est mauvais, quoi. Je veux dire, c'est les parents qui arrangent pour un jeune genre. C'est une histoire culturelle aussi, quelque part. Il y a une soumission à la culture. Mais bon.
Ok. Est-ce que Paul, tu veux prier, s'il te plaît, pour clôturer ce... Non.